Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral Digne. Vous avez reconnu, c'était le générique de lecture de textes de littérature féminine et féministe par Jacqueline Engrave. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour Tiffany, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous avons prévu de lire des morceaux choisis du livre de la docteure Amina Yamnian, Yamgnane, gynécologue obstétricienne à Paris, créatrice de la Clinique des femmes en 2016, avec un confrère. Le but était de créer un lieu pour organiser une synergie entre médecine obstétricale et soins psychiques, un lieu prodiguant des soins personnalisés, dispensés de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire conjuguant gynécologie, psychiatrie, sophrologie. La sophrologie est une technique de relaxation physique et mentale dans la préparation à l'accouchement en particulier, et maïeutique. Maïeutique, c'est la pratique de l'accouchement assurée essentiellement par les sages-femmes. Ce livre est intitulé « Prendre soin des femmes », sous-titré « Pour en finir avec les violences gynécologiques ». Il est paru aux éditions Flammarion en 2024. La thématique est la suivante. Il s'agit de sortir du mythe du « entre guillemets plus beau jour de la vie » en ce qui concerne la grossesse et l'accouchement et de décrypter la réalité du vécu des femmes. Voici ce que nous dit l'autrice, page 33 et suivante, chapitre 2, « Religion, politique et marketing, la fabrique d'une légende ». Donc, je cite… J'ai pris rendez-vous, docteur, car je suis enceinte. D'accord, et c'est une bonne nouvelle ou pas? Cette entrée en matière remplace dans mon cabinet le traditionnel « félicitations » qui m'a valu plus d'un regard interloqué de la part de futures mamans biberonnées à l'omniprésent mythe de l'heureux événement. Ma posture est un choix militant. À celles pour qui cette grossesse s'annonce en réalité comme une catastrophe, je veux offrir la possibilité de répondre « Ben non, docteur, d'ailleurs je suis venue pour vous demander une IVG. » IVG, je rappelle, interruption volontaire de grossesse. Ou bien entendu, encore plus subtil, « Je ne sais pas si cette grossesse est bienvenue, je suis perdue, dois-je aller au bout ou choisir l'avortement ?» Combien de femmes ai-je empêchées de formuler cette demande dans un cadre contenant, car j'adhérais moi-même, sans recul, à la mièvrerie de l'adage selon lequel la grossesse est un heureux événement. Non, la grossesse n'est pas toujours la bienvenue. Non, cette période ne se déroule pas toujours comme sur des roulettes. Non, l'accouchement n'est pas forcément le plus beau jour de la vie. Non, la rencontre avec le bébé ne coule pas toujours de source. Oui, il faut le dire, le suicide est devenu la première cause de mortalité maternelle dans la première année de vie de l'enfant. Le taire, c'est empêcher l'accès à des soins de qualité à toutes ces femmes, toutes ces mères qui tentent de se relever. C'est mettre en péril les liens d'attachement de l'enfant à ses parents. C'est hypothéquer l'avenir de ce futur adulte. Énoncer à voix trop haute les risques inhérents à ces événements de vie vaut généralement à celui ou celle qui s'y hasarde l'étiquette d'oiseau de malheur. N'allons donc pas effrayer les femmes avec de l'information transparente et loyale. Elles arrêteraient de faire des enfants. La baisse record du nombre de naissances en France a d'ailleurs de quoi faire s'agiter les épouvantails natalistes. Avec 678 000 bébés nés en 2023, moins 7% par rapport à 2022, la natalité est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pire, les femmes elles-mêmes sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux à souhaiter que ces informations ne soient pas délivrées. La nature a donné aux femmes le pouvoir de faire des enfants, les femmes savent donc faire des enfants. Si on laisse la nature faire, tout va bien se passer. Gare à ceux, à celles, qui osent s'aventurer à exposer qu'au-delà de 38 ans, la grossesse est plus à risque et que toutes sortes de complications sont à craindre. Gare à ceux, à celles qui affichent loyalement les chiffres de l'augmentation du risque de mort fœtale in utero en toute fin de grossesse. Gare à ceux, à celles qui qui s'appuie pourtant sur des publications scientifiques valides pour l'affirmer. Dans nos sociétés, l'enfantement et la parentalité ont été sublimés pour des raisons à la fois religieuses, économiques et politiques. Qu'il s'agisse de payer les retraites des plus âgés ou de fournir des paires de bras pour la production agricole, voire pour mener la guerre. On appelait cela autrefois « fournir de la chair à canon ». On en revient toujours au même point. Il faut que les femmes fassent des enfants pour aider les autres à vivre, et de préférence sans que ce travail soit rémunéré. Alors, nous valorisons les mères et le plus beau jour de leur vie, comme nous l'avons collectivement intitulé. Le réarmement démographique en est sa version laïque la plus récente, démontrant la ténacité des plus hauts responsables politiques en la matière. Là, je fais un rajout personnel pour dire que ce à quoi fait allusion l'autrice, c'est la conférence de presse prononcée par le président de la République en janvier 2024, où il appelait au réarmement démographique de la France. Alors, une remarque personnelle, on ne peut s'empêcher d'être stupéfaite de l'emploi d'un vocabulaire guerrier, le mot « réarmement », pour évoquer le taux de natalité et donc le choix qui revient aujourd'hui aux seules femmes de faire ou pas des enfants avec leur corps. Le journal La Croix relayait le même discours à la même période, c'est-à-dire le 16 janvier 2024, dans sa version religieuse. La naissance est une espérance. La religion catholique a toujours entretenu une visée nataliste, peut-on y lire, et encore plus à la lumière de la baisse de natalité en France, est-il ajouté. Dans la foulée, le marketing s'en est mêlé. Le marché de la grossesse et de la puériculture ne cesse d'enfler. Certains couples dépensent des centaines, voire des milliers d'euros dans les baby showers avec des ballons roses, si c'est une fille, et bleus, si c'est un garçon, beige, si le couple est moderne. Puis viennent les poussettes, les tables allongées, les transats, les laits maternité, les sièges auto, toute la gamme des petits pots et des vêtements qui seront trop serrés un mois plus tard. Il en faut, bien sûr, mais de toute évidence, cet énorme marché n'a lui non plus pas intérêt à ce que l'on commence à raconter que la parentalité n'est pas un long fleuve tranquille. Pourtant, les chiffres sont têtus. Pour 750 000 naissances par an, on recense 230 000 interruptions volontaires de grossesse, on évalue entre 200 000 et 300 000 le nombre de fausses couches et l'on pratique 7 000 interruptions médicales de grossesse pour malformation fœtale grave. Passer sous silence le désarroi de toutes ces femmes, de toutes ces familles, relève déjà de la mystification. Même pour les premières grossesses aboutissant sans encombre à un accouchement dans environ 40% des situations, l'aléa obstétrical viendra parasiter avec brutalité toutes les rêveries liées à l'enfantement. La distorsion entre l'accouchement imaginé et l'accouchement réel peut se révéler gigantesque. Ainsi, 20% des parturientes, donc des patientes, subissent une césarienne, le plus souvent non programmée. 17% des accouchements sont accompagnés par un instrument, forceps ou ventouse. Une femme sur 10 connaîtra une hémorragie de la délivrance, c'est-à-dire l'expulsion du placenta. Lorsqu'une dame accouche pour la première fois, elle a 60% de chances que cela se passe sans complications. Les statistiques sont formelles, stables depuis des années et partagées par tous les pays de l'hémisphère nord, car c'est bien pire dans l'hémisphère sud. Ajoutant que 12% des mères garderont un mauvais vécu de leur accouchement et 17% seront atteintes d'une dépression dans les 12 mois suivant celui-ci. Le traumatisme obstétrical est un risque réel et bien plus fréquent qu'on ne le croit. Dans quel domaine de la vie quelqu'un embarquerait-il pour un projet grévé de 40% de complications sans même en être informé ? Eh bien, celui de la grossesse. Et quelles sont les victimes d'un tel taux d'infortune qui continueraient d'affirmer qu'il ne faut rien en dire ? Eh bien, certaines femmes elles-mêmes. Gare évidemment à celles qui ne vivront pas ce moment comme un grand jour, le plus beau jour de la vie. Elles se disqualifient toutes seules, se culpabilisent d'avoir craqué pour une péridurale, subissent la honte et le dégoût d'elles-mêmes dès le placenta expulsé. Bien sûr, d'autres lignes sont aussi en train de bouger grâce aux femmes, une fois de plus. Les témoignages de celles qui souhaitent lever le voile sur la réalité de leur grossesse, de leur accouchement et de leur postpartum, c'est-à-dire la dépression postnatale, commencent à affluer. Deux infanticides sont recensés chaque semaine. 80% des cas de violence conjugale débutent lors de la grossesse ou de la première année de vie du nourrisson ou de la nourrissonne. Et les statistiques sur les violences éducatives restent alarmantes. Toutes ces données convergent vers un constat simple. Devenir parent peut s'avérer une épreuve bouleversante. Et si on laisse les personnes démunies face à ces difficultés, les conséquences sur les enfants peuvent être tragiques. Tous ceux qui refusent de remettre en question ce dogme vont à l'encontre du bien-être des parents, mais aussi de celui des enfants. Un débat de société s'impose à nous tous et à nous toutes. Si la légende de l'heureux événement nous structure, elle nous empêche aussi de prendre soin des femmes et des familles comme elles le méritent. Il nous faut sortir du monde des bisounours pour éduquer les citoyens et les citoyennes au sujet de la grossesse et du postpartum, de la dépression postnatale. Le message à faire passer est simple. Figurez-vous que pour certaines femmes, l'accouchement peut être un traumatisme, mais que nous avons les connaissances pour les en protéger. Ce ne serait rien moins qu'une révolution sociétale. Partout où j'ai exercé, j'ai pu constater la réticence de nombreux soignants en obstétrique à se préoccuper de la santé psychique des patientes. Moi, la première. D'abord du fait de notre incompétence en la matière. En effet, la faculté de médecine ne nous en a presque rien appris. Puisque nous, médecins et sages-femmes, ne sommes pas des ovnis déconnectés de la société, nous sommes également habités par ce fantasme du plus beau jour de la vie. C'est la raison pour laquelle j'affirme que le mythe de l'heureux événement est une entrave à la bientraitance. Même lorsque la grossesse et l'enfantement se déroulent mal, il peut être difficile pour les équipes de s'extraire de cette idéologie. Militant depuis près de 20 ans pour une meilleure prise en compte de la détresse psychique des femmes, je suis bien placée pour savoir que personne n'a envie de regarder les statistiques en face. Or, tant qu'on n'aura pas effectué cette démarche, on aura bien du mal à se sortir de nos représentations mièvres. Au passage, je cite donc les dernières statistiques parues en la matière dans le rapport annuel du ministère chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Un rapport intitulé « Chiffres clés, édition 2024, vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, chapitre 2, santé des femmes, maternité et périnatalité ». Je cite « Un décès a lieu tous les 4 jours en France, d'une cause liée à la grossesse, à l'accouchement ou durant la période jusqu'au 1 an de l'enfant. Pour la période 2016-2018, 272 décès maternels ont été identifiés. Et la première cause de mortalité maternelle à 1 an de l'enfant, toujours pour cette même période, c'est le suicide, 16,5%, suite à la dépression postnatale. Et donc, je reviens au texte du livre qui dit la même chose. En 2018, 42 femmes sont décédées à l'hôpital d'hémorragie de la délivrance, mais la même année, elles ont été 62 à se suicider dans les 12 mois suivant leur accouchement. Un peu plus d'une par semaine. Tous les gynécologues, pédiatres, sages-femmes, généralistes et autres soignants gravitant autour des femmes au cours de cette période périnatale doivent garder cette réalité à l'esprit. La dépression du postpartum, c'est-à-dire de postnatal, tue aujourd'hui davantage que l'hémorragie de la délivrance. Alors, en conclusion, je dirais que l'autrice ne s'en tient pas, bien sûr, à ce constat, qu'elle propose des solutions, des pratiques à développer et surtout à généraliser pour soulager les femmes, prendre soin d'elles, les respecter et prendre en considération ces multiples douleurs physiques et psychiques qu'elles subissent en silence dans notre société. Il faut lire son livre en entier et revenir au but de la mise en œuvre de pratiques professionnelles conjuguant gynécologie, psychiatrie, sophrologie et maïeutique, comme nous l'avons dit en introduction. Mais l'actuelle politique de santé, celle concernant les femmes en particulier, ne semble pas du tout prête à se diriger vers cette révolution sociétale. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de la santé des femmes, particulièrement par rapport à la grossesse et l'accouchement et leurs conséquences.
Merci Jacqueline.
Merci de m'avoir écoutée. Bonne journée à toutes et à tous.
Et on se retrouve le mois prochain.
Oui,
merci.
Au revoir.
Au revoir.